un autre de nos invités aujourd'hui, Francis Boucher, avec qui nous allons parler de la grande déception. Et nous allons voir un peu ce dialogue avec les exclus de l'indépendance. Ça, c'est le titre et le sous-titre de l'ouvrage qu'il a mis sur le marché il y a quelques mois déjà. Et on a aujourd'hui l'occasion d'en parler. Francis Boucher, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Première fois à cette émission Néo Québec. Et je suis très heureux parce qu'on va parler d'un sujet. J'ai pas. L'expression, on dit souvent, Dieu seul sait que j'aurais bien aimé depuis longtemps aborder ce
Oui.
sujet-là dans cette émission. Mais comme on dit, pas juste entre nous, néo-québécois, mais avec quelqu'un de l'autre côté. Parler un peu de souveraineté sans faire de la politique,
Non,
proprement parler. Et vous nous en donnez le prétexte aujourd'hui avec ce livre-là, La Grande Déception, dialogue avec les exclus de l'indépendance. Rien que le titre déjà. Une préface de Jean Dorion que j'ai adoré lire, parce que c'était vraiment un beau jeu de ping-pong
on peut dire ça comme ça.
entre, voilà, entre lui, préfacier, et vous, l'auteur. Je ne vais pas faire votre bio, Francis Boucher, mais déjà, au moins une chose est certaine, c'est que vous êtes un souverainiste, mais alors depuis toujours.
Depuis toujours, dans mon esprit, c'est clair que le Québec doit devenir un pays, pour toutes sortes de raisons, peut-être qu'on pourra revenir sur ces raisons-là, mais je suis très inquiet de la tendance qu'a prise le mouvement au cours des dernières années, moi je dirais depuis une dizaine d'années, et donc c'est ce qui m'a un peu interpellé, c'est le résultat de cette inquiétude-là se trouve dans ce
Se
livre-là,
trouve
effectivement.
dans ce livre-là, en fait, qui est, je rappelle, il est paru à Somme Toute, aux éditions Somme Toute. C'est un peu la résultante, grosso modo, pour parler de ce livre, d'un certain nombre d'entrevues que vous
Oui.
avez menées avec des néo-québécoises, des néo-québécois. Et à la fin de ce dialogue, ou de ces multiples dialogues, vous tirez une réflexion, certes personnelle. Et d'aucuns disent, je suis quand même allé fouiller un peu, d'aucuns disent inédite, et qui est de dire que il y a, au début de l'émission, on n'était pas encore là, j'ai utilisé le terme fossé.
Oui.
Et on tend à, le fossé tend à s'élargir
Oui.
encore un peu plus entre le mouvement souverainiste
Oui.
et les néo-québécois.
Oui.
Dans ce que j'ai parcouru, qui se lit au-delà, vraiment qui se lit très bien et vite, et quand
Merci.
on veut comprendre un peu, il y a plusieurs livres, hein, sur la souveraineté. Pour qui veut savoir un peu le Québec, cette partie du Québec qui demande la souveraineté, il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus, mais il y a des choses que vous avez rappelées qui sont peut-être du côté de l'anecdote, mais moi, m'ont encore apporté dans la connaissance de ce mouvement-là. À la base, le mouvement souverainiste, le Parti québécois, donc René Lévesque, Gaudin, sont des gens très proches des, à l'époque, on dit communautés
Oui,
culturelles.
parce que à l'époque, il faut se rappeler, c'est le grand mouvement de décolonisation qui se produit à travers le monde, et le Québec s'inscrit profondément dans ce processus-là, dans les années 60 essentiellement. Et on se retrouve effectivement avec une sorte de solidarité naturelle avec les peuples du monde qui, eux aussi, demandent l'indépendance. Donc on peut nommer évidemment tous les pays d'Afrique subsaharienne, on peut nommer aussi l'Algérie, le
L'Algérie,
Liban,
oui, à l'époque.
Cuba, etc., etc. Donc on se retrouve en plein dans ce mouvement-là, et c'est donc tout naturellement que les premiers indépendantistes vont se solidariser avec ces peuples-là, ils vont les prendre en exemple, et on va s'inspirer aussi de leur littérature. On pense ici à Frantz Fanon, on pense à Albert Mémy, etc., etc. Donc on s'inscrit là-dedans. Et donc forcément, on est solidaire et on est admiratif de ces mouvements-là. Et donc oui, c'est naturel à l'époque, et le Parti québécois est issu de ce mouvement de décolonisation aussi.
Oui, puisque quelque part, on sait, bon, le Québécois, parce qu'on le dit souvent très vite comme ça au cours de conversation, mais le Québécois aussi ce rapport dominant-dominé avec, je parle ici du Québécois francophone, avec l'anglophone.
Il faut se rappeler où on est. Hein. Je le dis dans le livre, mais en 1961, les Québécois, donc Canadiens-Français, quelque chose comme, il me semble, sont 12e sur 14e au Canada en termes de richesse. Hein. Donc, parmi les 14 groupes ethniques du Canada, from coast to coast, nous sommes parmi les plus pauvres. Montréal est la ville la plus pauvre en Amérique du Nord. Le quartier Saint-Henri, notamment, est le quartier le plus pauvre en Amérique du Nord. 85% des Canadiens français doivent parler l'anglais au travail. J'en passe et des meilleurs. Donc, on est dans une situation coloniale. À Montréal, il faut se rappeler aussi que tout était en anglais. L'affichage était en anglais. On ne pouvait pas travailler en français. On ne pouvait pas s'adresser aux commerçants en français. Et donc, on part de cette colère légitime en fait, c'est une situation coloniale, littéralement, et on l'oublie. Et c'est un peu le sens de mon livre.
C'est ce que je vois, oui. C'est comme cette espèce d'oubli, là. D'où est venu le mouvement souverainiste et tout. Donc, vous parlez, on voit, donc, lorsqu'il y a la naissance du Parti québécois, que des gens comme René Lévesque, en l'occurrence, pour eux, les communautés culturelles présentes à ce moment-là, les Grecs, les Portugais, doivent être partie prenante de ce mouvement-là. Vous citez quelqu'un comme Godin, qui lui, est quelque part quelqu'un dont vraiment la démarche vous plaît beaucoup, est véritablement, je dirais, intégré dans ces communautés pour pouvoir les ramener au mouvement souverainiste. Parce qu'on va aller assez rapidement sur les étapes. La première, je ne dirais pas rupture ou désamour, ou vous la situez au référendum?
Oui, je la situe plus précisément le 30 octobre 1995. Si vous lisez le livre, vous pourrez constater que plusieurs personnes s'en rappellent comme si c'était hier, qu'ils soient nés ici ou pas, qu'ils soient âgés ou pas. J'ai par exemple un garçon comme... Je dis garçon, il n'est pas si jeune que ça. Eric Preach, humoriste qu'on connaît, qui était au secondaire.
Il était au secondaire, c'est ça, exactement.
Et qui se souvient de cette phrase malheureuse, donc, de Jacques Parizeau, qui, dans un élan de tristesse et de passion triste, et puis de rancœur, et probablement sous l'influence de, il a dit... nous avons perdu au fond par quoi? Par l'argent et des votes ethniques. Hein? Bon. L'argent, à la rigueur, je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Maintenant, des votes ethniques, ça me paraît grossier, considérant que Québec, par exemple, a voté, Québec qui, est, bon, qui était à l'époque très, très blanche.
Oui, moi je découvre ça dans votre livre. Québec vote non.
Donc, et cette idée de séparer les citoyens selon leur ethnie ou leur couleur ne m'apparaît pas une idée très républicaine. Ça me paraît, en fait, c'est une grossière erreur. Et il a reconnu à demi-mot son erreur, il a démissionné dès le lendemain, et son discours du lendemain est un discours extraordinaire. Donc pourquoi ne pas avoir pris ce discours-là la veille?
Oui, même si Francis Boucher, aujourd'hui, nous sommes bien placés pour juger de ce discours de Parizeau à ce moment-là. Bon, je sais qu'il y a eu toutes des théories. Il a dit des, pas les. Donc, on a un peu joué une nuance. Mais vous le dites clairement, et la majorité des interlocuteurs que vous avez, parmi lesquels des souverainistes, des néo-québécois très souverainistes, à ce moment-là, il y a une rupture.
C'est ça le plus triste, je trouve. C'était des gens, beaucoup de gens dans mon livre, dont les parents étaient indépendantistes, avaient voté oui, donc les personnes d'origine haïtienne, par exemple. Et sont tristes et sont consternés et, par
tout
exemple...
Tout de suite se sentent exclus.
Se sentent tout de suite exclus et deviennent soudainement rejetés hors de la famille, alors qu'ils étaient partie prenante de cette famille-là. Donc là, on a une première rupture, sauf que la différence que je vous dirais avec la suite, c'est que Parizeau était un homme seul qui a prononcé un discours comme celui-là, qui a été vastement, disons, critiqué dans les prochaines heures, prochains jours-là. Pour moi, on y vient probablement là. La charte est d'un autre ordre, la charte des valeurs, alors que là, on est dans une entreprise d'un parti politique, et donc c'est plus collectif.
C'est plus collectif, c'est ça. Bon, Parizeau, oui, il est un homme seul, mais il est quand même, comme on dit, c'est monsieur. Il porte le mouvement sur ses épaules quasiment. Donc, de Parizeau, 95, à... là, les dernières années, là, il y a une dizaine d'années. est-ce que, parce que ça je ne l'ai pas beaucoup senti dans le livre, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même le parti, ou pas le parti, parce que ce n'est pas une histoire de parti, le mouvement souverainiste, est-ce qu'il fait quand même une remontée vers pour aller reconquérir le cœur des néo-québécoises et néo-québécois?
Pas assez à mon sens. On est entré, à mon avis, dans une phase de repli, comme le décrivait un peu André d'Allemagne dans les années 60, qui parlait de la colonisation, du Québécois colonisé. Il disait, le Québécois, ça c'était avant la Révolution tranquille et le début du mouvement indépendantiste, donc il disait, le Québécois est généralement plutôt xénophobe parce que il a été humilié par l'anglo-saxon, et donc son réflexe naturel, c'est de se replier sur lui, par un réflexe de défense. Et donc, les nouveaux arrivants deviennent des perturbateurs ou des gens qui vont déranger. Et j'ai comme le sentiment qu'on est revenu à une espèce de repli sur soi. Cependant, il y a toute une jeunesse maintenant indépendantiste qui se retrouve dans plusieurs partis politiques, on ne fait pas de politique aujourd'hui, effectivement, qui ont un nouveau discours qui est beaucoup plus inclusif. Et je dois dire qu'à ma modeste mesure, quand je fais des conférences devant, par exemple, un parterre de baby boomers, je ne fais pas d'âgisme ici, là, mais c'est sûr qu'eux, bon, c'est plus difficile d'emblée. Mais je vous dis, ils sont la plupart du temps, ils sont convaincus à la fin, puis ça leur donne le goût encore de repartir au combat, puis d'aller convaincre. C'est un peu ça l'idée, tu sais, c'est de dire, regardez là, c'est pas parce que la personne a la pigmentation foncée qu'elle est d'emblée un ennemi et d'emblée un fédéraliste vendu aux Rocheuses. Tu sais, je caricature, je fais des blagues.
Oui, tout à fait.
Mais c'est ça qu'il faut sortir de notre esprit.
Mais d'où vient, juste ça m'a toujours taraudé l'esprit, d'où vient cette idée selon laquelle tous les néo-québécois sont d'emblée anti-souverainistes? D'où ça vient dans le mouvement souverainiste?
Ben, écoutez...
Parce qu'on ne peut pas ramener ça à Parizeau, quand même.
Non. Ben, écoutez, la question est complexe, mais si je veux simplifier, je vous dirais que dans les années 50, 60, les premières vagues d'immigration, notamment portugaise, italienne, grecque, vous l'avez nommé tantôt, ils arrivaient ici et le Québec n'était pas encore une nation qui s'était affirmée comme elle l'est aujourd'hui. Et donc, le réflexe naturel des néo-québécois de l'époque a été de se liguer de façon naturelle et par réflexe de survie, eux aussi, aux Anglais. Et donc, ils se sont anglicisés et sont devenus effectivement très fédéralistes parce qu'ils ne voulaient pas s'associer aux perdants de l'histoire, essentiellement. On peut le résumer comme ça. Donc, il y a chez les Québécois dits de souche, peu importe ce que ça veut dire, j'y crois pas trop à ce concept-là, mais peu importe, il y a encore, je pense, une sorte d'atavisme, alors que l'immigration a changé. Ce n'est plus la même.
C'est plus la même.
C'est une immigration qui est issue elle-même de mouvements de décolonisation. On pense aux Haïtiens d'origine, l'Afrique subsaharienne francophone, les Maghrébins, les Algériens, les Marocains et tout ça. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à déconstruire là-dedans. Et déconstruire ça, c'est se décoloniser un peu. C'est ce que je dis, au fond, je dis, le Québécois est encore colonisé parce que, justement, il a peur de l'étranger. Il va commencer à se décoloniser, à mon avis, quand il va accueillir beaucoup mieux et plus.
Malgré l'avancée qu'il a fait, oui. Dans vous donner le classement tantôt de 12, où il était 12e sur 14.
On
malgré ça, il a toujours ce sentiment-là.
Je pense.
On avance dans le temps. Il y a plus ou moins, on repart chercher un peu ces communautés-là. Et on se retrouve avec... Parce qu'avant la charte, il y a l'époque Boisclair.
Oui.
Est-ce que, même avec l'époque Boisclair, il n'y a pas une tendance à aller rechercher des...
Je vous dirais que Boisclair a fait de vrais efforts en ce sens-là. Maintenant, on ne peut pas... En fait, le travail est à long terme. On ne peut pas penser que par un coup de baguette magique, ça va se faire. Il y a beaucoup d'inimitié, il y a beaucoup de ponts à rebâtir, il y a beaucoup de confiance à refaire. Et cette méfiance-là, Boisclair est arrivé malgré tout dans un climat de méfiance. Et évidemment, le Québec n'échappe pas à la tendance mondiale de l'islamophobie.
C'est là où je voulais en venir, effectivement.
Je vous laisse...
Mais c'était juste pour dire que on va aborder la charte, mais dans la relation mouvement souverainiste et néo-québécois, est-ce que les souverainistes, à un moment donné, n'ont pas je dirais, pas tout confondu, mais non pas tout de suite fait un amalgame entre l'islam et les étrangers, c'est-à-dire et les nouveaux Québécois, dans le sens où, ok, parce qu'on a un problème avec l'islam qu'on voit arriver, du moins des adeptes de l'islam, hein, mais qui sont des musulmans, qui sont québécois, est-ce qu'on ne mélange pas tout le monde et on se dit, non, ceux-là, comme on dit, eux autres, là, ils vont jamais voter pour nous. Et ça crée un mur.
Ouais, je pense que le calcul du Parti québécois de l'époque était effectivement de créer un clivage, puis de s'assurer, au fond, que le vote des Québécois francophones ayant peur de l'islam vienne à eux, naturellement. Sauf que moi, ce que je dis, c'est que c'est une stratégie perdante, dans la mesure où ce n'est pas une stratégie pour l'indépendance. Ça peut être une stratégie pour prendre le pouvoir, mais même là, on a vu qu'elle n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné.
Tout à fait.
Donc, c'est manifestement, à sa face même, c'est une stratégie perdante. Bon. Et pour créer une grande coalition autour du oui et d'un référendum éventuel, il faut clairement changer de position. T'sais. Et oui, il y a eu des amalgames, évidemment. Mais comment je vous dirais? Je pense qu'il n'est pas déraisonnable d'avoir une méfiance relative envers le fait religieux. Par exemple, on le voit actuellement avec l'Église catholique, et on ne peut pas dire que, bon, tu sais, avec les scandales de pédophilie, etc. Donc ça, je pense que c'est... Ça, je pense qu'on doit peut-être en tenir compte, mais de là à, par exemple, je vais caricaturer, mais empêcher une femme qui porte le hijab de travailler dans le complexe G à Québec, dans le troisième sous-sol ou avec le public, ça me paraît complètement, moi, ça me paraît délirant. Ce n'est pas une bonne façon de faire et c'est inutilement mesquin. Et c'est ce que Parizeau disait. Il disait, les Québécois ne sont pas méchants. Ça, il est revenu là-dessus un peu plus tard, il disait, moi, il était contre la charte. Il disait, les Québécois ne sont pas méchants. Je suis convaincu qu'ils n'accepteraient pas ça. Puis effectivement, dans les sondages, on a vu que les gens ne voulaient pas que les gens perdent leur emploi.
Il y a un terme, sauf erreur de ma part, mais que vous n'utilisez quasiment pas dans le livre, un mot plus ou moins, c'est le mot racisme. Est-ce que Francis Boucher, à un moment donné, devant je sais que les institutionnels n'acceptent pas cette expression-là, mais il y a un racisme systémique au Québec, devant vous, parce que vous avez aussi déjà dit ça, je ne parle pas des Québécois, je dis bien au Québec. Est-ce que le fait que les Néo-Québécois, voyant cette situation là où il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes, se disent, mais finalement, si le Québec devient indépendant, peut-être que notre situation là-dedans va encore être pire. Est-ce que, parce que ça, c'est pas l'objet de votre livre, hein, mais
C'est possible.
est-ce que éventuellement, dans vos discussions avec les une douzaine, hein, quand même,
Ah oui,
d'intervenants que vous
c'est
avez
pas
eu,
plus.
ça a abordé cet aspect des
Oui,
choses?
certains m'ont dit carrément que, effectivement, ils avaient peur des indépendantistes depuis un certain nombre d'années, dans la mesure où ils sentaient que, effectivement, leurs conditions allaient se dégrader. Et que, à la rigueur même, bon, c'est ça, bref, qu'ils allaient en pâtir, bref, de cette indépendance-là. Et donc, ça, pour moi, c'est parlant. Donc, il faut travailler là-dessus. Il faut changer de discours, il faut avoir une autre attitude. Le mot racisme, effectivement, je vous dirais que je l'utilise très peu dans la vie en général, dans la mesure où je pense que les vrais racistes, il y en a, évidemment. Mais je pense que la plupart des gens, je table sur une sorte de décence ordinaire, d'accord? Et donc, je pense que la plupart des gens, peu importe de leur origine, quand on se parle, quand on fait ce qu'on fait là en ce moment, il faudrait multiplier ces occasions-là, puis on verrait bien que. Ben, les gens sont comme nous, hein. Ils ont des problèmes d'emploi, ils ont des problèmes de pour arrondir les fins de mois, ils ont des enfants, ils ont des problèmes avec leurs enfants comme nous. Donc, bref, il faut passer outre ce fossé-là, puis aller par-dessus, puis forcer les rencontres. Et je pense que le Québec en fait pas assez. Vous parliez de Boisclair tout à l'heure, il a éliminé ce qu'on appelait à l'époque les COFI. Je me souviens plus de
Oui,
l'acronyme,
oui,
c'est OFI.
c'était ça, des organismes.
Francisation et d'intégration, quelque chose
D'intégration,
comme
voilà,
ça.
c'est, ouais.
Et ce que faisait cet organisme-là, c'est qu'il, certes, francisait les néo-québécois, mais aussi, il organisait des échanges culturels entre les deux. Donc, par exemple, un petit maghrébin ou une dame maghrébine pouvait, à la rigueur, se rendre en région, puis côtoyer des Québécois et vice-versa. Mm-hmm. Donc, on créait des ponts comme ça. Et puis ça, je trouve que c'est une initiative qui devrait être mise au goût du jour, au-delà de l'indépendance, là, vraiment juste pour le vivre ensemble et arrêter la méfiance.
J'ai parcouru les critiques à votre ouvrage.
Elles sont
là aujourd'hui. Bon, on a l'occasion, peut-être à travers cet échange, d'amener des néo-québécois, à part ceux qui sont peut-être intervenus, mais à découvrir ce livre. Moi, c'est vraiment le conseil que je donne. Ça se lit très très bien, mais les critiques sont venues du mouvement souverainiste. J'avoue qu'ils n'ont pas été tendres avec vous. Parce qu'on vous, on, c'est-à-dire ce mouvement-là, vous accuse de faire un souverainisme bashing. C'est-à-dire que, à vos yeux, vous, souverainiste, j'allais dire naturel, vous mettez la faute sur le mouvement et non pas sur les autres. Ça, c'est une des critiques.
Oui, tout à fait. On a
l'autre, c'est que vous êtes très proche des mouvements de gauche et des militants anti-racistes, anti-islamophobes, anti-ceci. Donc, vous êtes plutôt très à gauche avec ces, comme on dit, ces militants multiculturalistes. Ce qui fait un peu. Ça fait partie de toutes ces critiques.
Oui. Sauf que je pense qu'ils m'ont mal lu. Parce que je suis plus nuancé et plus subtil que ça. Je dis deux choses. Je dis, un, le Québec forme une nation, 400 ans d'histoire, des institutions, une langue, une culture. Hein, on parle de culture beaucoup dans ce livre-là aussi. Et donc, il a droit, à mon sens et au sens des indépendantistes, il a droit à son indépendance. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il doit aussi plus et mieux accueillir les néo-québécois. Il doit faire plus d'efforts. Il doit être beaucoup plus proactif, beaucoup plus séduisant et beaucoup plus s'occuper des problèmes spécifiques aux communautés. Donc, je dis deux choses. Eux, ils n'ont retenu que la deuxième patte. Alors, moi, je trouve que c'est une erreur parce que les racines même du mouvement sont ces deux. C'est comme si on n'était plus capable au Québec en 2019 de penser de façon complexe. Il faut être soit l'un ou soit l'autre. Mm-hmm. Et ça m'agace profondément.
Ça se voit dans votre livre, là, vous le dites.
C'est très agaçant. Mm-hmm. C'est une façon de tout simplifier. Trudeauiste, raciste, multiculturel, agent de l'islam, ça devient débile. Mm-hmm. On n'est plus capable de penser. Et ça, je pense que les réseaux sociaux n'aident pas, là.
Pas non plus. on est d'accord là-dessus.
La pensée complexe, là, il faut la réhabiliter.
Aujourd'hui, la charte, je ne dis pas qu'elle est passée, il y a eu la charte.
Oui.
Les années ont passé, on a eu octobre 2018, l'entrée de la CAQ, vous entriez en studio quand on finissait, on revenait encore sur les 18 000 dossiers d'immigration jetés à la poubelle. Francis Boucher, aujourd'hui, quand vous lisez là, ce qui se passe, le mouvement souverainiste par rapport au néo-québécois, vous le situez où? Parce que là, vous avez fait un constat.
Ouais.
Okay? Vous avez fait un constat.
Ouais.
Vous dites quoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire? On en est où? Qu'est-ce qu'on fait?
Le Parti québécois est très faible, donc je ne vais pas m'amuser à tirer sur une ambulance aujourd'hui avec vous. Ça ne m'intéresse pas. Mais je dirais, de façon générale, le mouvement, par exemple, pourrait prendre des pas importants en cessant, par exemple, à la prochaine élection, de présenter des membres issus des communautés dans des circonscriptions ingagnables.
Francis, ça fait 15 ans qu'on le dit.
D'arrêter de les envoyer au casse-pipe.
Okay.
Donc, donnez-leur une circo en région, pourquoi pas. Les gens ont été élus des maires d'origine haïtienne au Québec, dans les régions. Là. C'est pas vrai que... Il faut arrêter de voir aussi, de l'autre côté, tous les Québécois dits de souche comme étant fermés à l'immigration, parce que là, on n'en finira plus. Là. Donc, bref, faisons-nous confiance, faisons-le. Donc, arrêtons de les envoyer au casse-pipe et faisons-en des porte-parole, des dossiers importants et essayons de les sortir du discours antiraciste. C'est-à-dire de leur faire parler d'autre chose que de discrimination. Mm-hmm. Et ça, je pense que c'est important, en mesure où ça devient, à un moment donné, des porte-parole avec des monodossiers. Alors, ils sont parfaitement capables de parler de politique d'éducation, de finances,
De santé, d'éducation.
C'est une ghettoisation au fond de la pensée qui puis je pense qu'ils s'en plaignent en partie aussi. On m'appelle toujours, par exemple, des porte-parole disent, on m'appelle toujours quand il est question de racisme. Ben, appelons-les donc quand il est question de santé ou de garderie ou de... Tu sais, bref, de normaliser au fond la présence dans l'espace public. Mm-hmm. Ça passe par la politique, ça passe par la culture aussi. D'avoir des émissions de télé qui, pourquoi pas, suivraient une famille d'origine haïtienne, ce serait génial. Bref, il y a plein de choses à faire qui n'appartiennent pas qu'aux indépendantistes, certes, mais il y a là quelque chose. Puis peut-être aussi, par exemple, rappelez-moi, vous allez peut-être m'aider, le premier député noir indépendantiste du Parti québécois.
Jean-Alfred.
Mm-hmm. Pourquoi pas célébrer Jean-Alfred, puis avoir plus de Jean-Alfred, puis rappeler qu'il y avait des gens d'origine X, Y au départ dans le mouvement indépendantiste et célébrer cette mémoire-là. Bref, faut faire plus d'efforts, être moins, j'aimerais dire, paresseux.
C'est ça. Francis Boucher, vous devriez aller dans des cercles, comment dire ça, où justement il y a... Vous le faites déjà, hein, soit dit en
passant. Pas assez, on m'invite pas.
Voilà. Donc, vous devriez aller là et puis parler de ça. Parler de... Oui, cette grande déception-là, parce que la déception, elle n'est pas seulement de votre côté à vous, mais là, dans le livre, vous le montrez, mais manifestement bien, elle est aussi du côté de ces néo-québécois qui se sont sentis... et qui se sentent encore exclus. Oui. Et l'idée c'est pas un mouvement monolithique. Là-dedans, il y a effectivement des fédéralistes, des souverainistes, voire même des autonomistes qui se font aussi, on est encore au Québec, mais disons que il y a un peu de tout cela, mais vous devriez vraiment aller échanger avec ces gens-là. Je pense que c'est pour le bien du mouvement souverainiste. Je vous donne 15 secondes pour me dire pourquoi le Québec doit devenir un pays.
En fait, il y a tellement de problèmes liés à notre situation de coloniser envers le gouvernement fédéral, notamment des problèmes de psychologie dont je vous parlais tantôt, le fait qu'on n'accueille pas assez bien les immigrants fait partie de ce problème-là. Et je pense que le Québec peut et doit devenir meilleur, et ce n'est qu'en contrôlant l'entièreté de ses outils, notamment en matière d'environnement, notamment en matière d'immigration, notamment en matière de langue, qu'il ne pourra s'épanouir et devenir ce qu'il doit être, c'est-à-dire un pays prospère, certes, mais ouvert et accueillant pour tout le monde.
Francis Boucher, La grande déception, dialogue avec les exclus de l'indépendance, aux éditions Somme toute, avec une belle, mais très belle préface de Jean Gagnon.
Merci Jean.
J'aime, je conseille cette lecture-là, celle de ceux qui nous écoutent, ça vous donne un point de vue. Vous avez rencontré des gens, vous avez parlé de Plitch, Rosa Pires,
des
noms
Hippolyte,
comme ça, et Rachel Hippolyte. C'est des noms que je retiens et on les lit aussi dans cet ouvrage. Merci beaucoup à
Merci.
Vous. Et puis, j'espère que ce dialogue-là, on va le continuer.
Je le souhaite.
Merci à vous.
Africa.
Merci d'avoir écouté Néo-Québec. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des chroniques sur notre page Facebook où nous diffusons nos chroniques live tous les jeudis matins. N'hésitez pas à vous abonner également au podcast sur la plateforme que vous préférez, à recommander, partager et nous laisser vos commentaires. Cela aide toujours. Un lien est disponible dans les notes des épisodes pour nous laisser des messages audio que nous pourrons écouter et pourquoi pas partager dans un prochain épisode. Et pour conclure, on vous laisse avec une citation de Aude Lord. Lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne seront pas entendus ou accueillis. Mais quand nous sommes silencieux, nous craignons toujours. Il est donc préférable de prendre la parole.